qu'on vit tout à fait normalement. Et comme je n'ai pas l'intention de vous inviter dans mon lit, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc c'est vrai qu'arriver à filmer et à mettre en image des sentiments, ben, jusqu'ici j'ai vu que Martine Asselin, avec La Grande Amoureuse, qu'il a fait d'une façon à la fois approfondie, belle, puis avec un vrai parti pris de réalisatrice. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et là, il y a une fille qui nous a contactés aussi à Paris. Elle voudrait le faire. Et ça m'intéresse. Elle voudrait arriver à faire une fiction pluriamoureuse à partir d'un tas de témoignages, construire un scénario de fiction.
Tu peux m'expliquer pourquoi pluri et pas poly?
Alors moi, je préfère dire pluriamoureux, parce que polyamoureux, c'est venu du polyamorie américain. Et je trouve que le mouvement américain est un peu différent du mouvement européen. Il se revendique plus communautaire. Il y a beaucoup plus de... Et il se revendique plus avec Poly Pride, enfin, à la façon dont font les Américains, quoi, communautaire. Et je crois qu'au contraire, les pluriamoureux sont des gens qui, même s'ils sont très sympathiques ensemble et tout, ils ont aussi une réflexion individuelle qui dépasse même la réflexion amoureuse, qui des fois va sur la réflexion de leur implication dans la société. C'est ce que vous faites à la Maison Arc-en-Ciel, enfin. Et je crois que... Et puis pluri... Amoureux, poly, c'est un suffixe grec, amor, c'est un suffixe latin, pluri, c'était plus logique aussi. Voilà. Mais on peut dire aussi lutin-lutine, ça a pas mal pris sur Facebook, lutin-lutine. Voilà. Donc moi, pour tout vous dire, j'en ai un peu marre de parler du pluriamour, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on m'appelle pour ça, et qu'il y a quand même énormément d'autres choses qui m'intéressent, notamment l'écologie, l'environnement, les gouvernements qui se disent socialistes et qui font des politiques de droite, les voyages, la façon dont en Amérique latine le monde bouge et que personne ne le sait. Bon, il y a plein d'autres choses, mais dès qu'on m'appelle, c'est « Allô, bonjour, vous êtes la papesse du pluriamour, on voudrait vous voir voilà. ». Donc j'avais plus très envie d'en parler, et puis j'ai proposé à Philippe ce sujet sur le pluriamour à travers les âges. Alors c'est pas de l'homme de Néandertal jusqu'à l'homme bionique, c'est plutôt à travers les âges de la vie, différentes décennies. Bon, j'ai fait ça d'une façon un peu schématique par décennie, parce que bon, ça correspond quand même à des périodes de vie. Et parce que aussi, il y a un proverbe qui dit « quand on aime, on a toujours 20 ans », et ben c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. L'amour n'est pas le même quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus. Ça veut pas dire d'ailleurs qu'il est moins bien à 50 qu'à 20. Ou moins bien à 20 qu'à 50. C'est complètement différent. Et déjà, c'est vrai pour les monogames, mais je crois que ça l'est encore plus pour les pluris, parce que les pluris, ben, ils sont sur un chemin relativement peu défriché. Et bon, il y avait une autre raison qui m'est tout à fait sentimentale, c'est que l'an prochain, en janvier 2013, exactement, je fêterai mes 40 ans d'entrée dans les amours pluriels, puisque c'est en 1973 que j'ai connu le premier vrai amoureux alors que j'étais mariée. Et il est toujours dans ma vie, 40 ans après. Donc voilà, je me suis dit, c'est une bonne occasion pour faire une sorte de recul, puis je pense aussi avoir une certaine distance, parce que sur 40 ans, on en vit des choses avec du très bon, avec parfois des remous, comme tout couple d'ailleurs, mais alors quand c'est multiplié, quand c'est pluri. Et puis aussi parce que, ben, quelque part, le fait d'avoir surmonté un certain nombre de choses, ça crée une sérénité sur d'autres problèmes. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir ce recul. Alors moi, j'ai commencé très tôt, hein, puisque j'ai connu mon mari, j'avais 17 ans. J'étais vierge, naïve, oie blanche, ne sachant pas du tout ce que pouvaient être les amours pluriels, n'y ayant même pas pensé. Et lui, il avait 20 ans quand on s'est connus. Donc c'est vrai que c'est pas pareil de le commencer très tôt ou de le commencer à 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Donc ce que je vais vous faire plutôt, c'est de... Parce qu'il y a des gens qui commencent les amours pluriels tout de suite au début de leur vie amoureuse, relativement peu d'ailleurs. Il y en a ensuite qui viennent un peu plus tard, il y en a qui viennent carrément sur le tard après avoir élevé leurs enfants, et il est évident que l'expérience ne sera pas pareille. Donc quand je parle d'âge du pluriamour, c'est l'âge biologique qu'on a, mais c'est aussi la durée de vie du pluriamour. Parce que quand on commence, en définitive, c'est souvent là que c'est le plus difficile. Je peux vous le dire, ça s'améliore avec le temps. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, donc on va commencer pour chaque étape. Je vais vous parler des questions qui se posent un peu à tout le monde, qui sont en fait qui sont liées à ce qu'on est à un certain âge. Étant entendu aussi que là, ça diffère aussi suivant les époques. C'est pas du tout pareil d'avoir eu 20 ans comme moi dans les 70s, dans une période libertaire où on parlait beaucoup de liberté sexuelle, où les comportements, j'allais dire, un petit peu marginaux étaient plutôt valorisés, qu'aujourd'hui où on est de nouveau dans une période extrêmement conformiste, malgré les apparences. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai aussi que selon la période à laquelle on a vécu, on n'est pas indépendant du contexte social ou politique dans lequel on vit, et ça influe sur la vie privée. L'avantage aujourd'hui, par contre, c'est que c'est beaucoup plus médiatisé. que vous êtes là quand même nombreux, alors que pendant des années, j'avais l'impression d'être un vilain petit canard égaré sur une mare et toute seule. Donc, il y a quand même eu des progrès, il y a eu de la progression dans les idées, mais par contre, il y a peut-être une atmosphère plus compliquée par certains côtés. Donc, à 20 ans, 20-30 ans, je vais dire, c'est la découverte de soi et de l'autre. De soi, parce qu'à 20 ans, on n'est pas mûr, on n'a pas fini ses études, souvent, aujourd'hui, où on commence à peine dans le travail. Et puis, on connaît peu l'autre, même si on a eu quelques petits copains, copines, on ne sait pas encore trop ce que c'est que sa propre sexualité, que son plaisir, et encore moins la vie commune, même si on se met en couple, puisqu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui se mettent très vite en couple. Mais on est quand même débutant dans tout. Et avoir plusieurs relations est assez courant. Je reçois beaucoup de lettres de jeunes qui me disent « Ah, moi, je suis polyamoureux, j'ai 3 copines, machin, etc. » Mais ça se termine presque toujours par « en attendant de trouver la bonne ». Voilà. Donc, en réalité, moi, je leur réponds « Bon, vous êtes dans, factuellement, vous êtes pluriamoureux, mais est-ce que vous avez réfléchi aux liens que vous créez, au fait que ce sont de véritables liens? D'abord, est-ce que vos amoureux sont au courant? Ce qui est quand même une des bases, que ça ne soit pas caché. Et puis, la bonne, comment vous allez déterminer laquelle c'est? Et pour la plupart, je m'aperçois que souvent entre 20 et 30 ans, le pluriamour est vu comme une sorte d'apprentissage, en fait, d'apprentissage de l'amour, mais comme autrefois, il y avait des gens qui avaient plusieurs amoureuses en se cachant, mais en fait, ils en avaient plusieurs. Il n'y a pas la réflexion sur, au fond, le modèle de couple est-il le bon? Dans leur tête, encore, il y a très souvent, un jour, je m'assagirai et je me mettrai en couple. Alors, ce n'est pas général. Il y a des gens qui ont déjà réfléchi au pluriamour très tôt, mais il y en a beaucoup, c'est encore ça. C'est se dire, je papillonne, chouette, on parle de pluriamour à la télé, donc c'est beaucoup plus simple maintenant de pouvoir dire je suis pluriamoureux. Ça peut être aussi un truc de dire à sa copine, dis donc, on va être pluriamoureux, hein, c'est super cool, alors moi j'ai une autre copine, et puis t'as rien à dire, parce que tu vois, aujourd'hui tout le monde le fait, un peu comme, tu sais, il faut que je te sodomise, aujourd'hui tout le monde le fait. Donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire prendre les médias, ce qui est dans les médias, pour faire croire que ça concerne la majorité. Or, aujourd'hui, on sait que les pluriamoureux, ça ne représente pas la majorité des couples. On est de plus en plus nombreux, mais enfin, si ça représente 5 à 10%, à mon avis, c'est tout. Et encore, c'est difficile à savoir. Je ne sais même pas s'il y en a autant. Du côté des filles, il y a entre 20 et 30 ans, il y a des filles qui sont pluriamoureuses dans une espèce de revendication d'égalité avec les garçons. Du genre, je veux m'éclater. Ça, j'en ai vu beaucoup sur des sites comme comment ça s'appelle, adoptamec.com, et du coup j'en ai interviewé. Adoptamec.com, c'est un site de rencontre fréquenté par des filles assez jeunes, et c'est rigolo parce qu'elles sont avec leur petit caddie et elles mettent des fiches de garçons dans leur panier, comme si elles achetaient des bouquins, elles achètent des mecs, et par contre les mecs ne peuvent pas les contacter, je crois c'est elles qui contactent les mecs en direct. Et il y en a qui m'ont dit, oui, ben moi j'ai pas besoin d'un mec, j'en ai besoin de plusieurs, essentiellement pour d'ailleurs du plaisir. Et puis le reste du temps, j'ai mes copines, j'ai mes potes. Donc pour elles, le pluriamour, c'est plutôt une sorte de libertinage organisé. Alors après, elles peuvent se dire aussi, mais c'est rudement bien. Ça me plaît comme ça, je me sens bien comme ça. Et en venir à la réflexion pluriamoureuse et évoluer vers ça. Mais très souvent au départ, c'est pas du tout en se disant le couple. Parce qu'en fait, je crois quand même que le pluriamour, c'est une remise en cause d'un modèle unique imposé par la société. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le couple monogame soit mauvais. Mais il peut, pourquoi l'imposer à tout le monde alors qu'il ne convient pas à tout le monde? Et à 20 ans, donc, il y en a qui sont papillonneurs, il y en a qui veulent s'éclater. Et puis beaucoup se disent après, je me fixe, j'ai un copain, une copine. Et il se posera alors la question de la fidélité ou de l'infidélité. Et là, au sens classique du terme, c'est-à-dire d'avoir ou non plusieurs relations. Et à 20 et 30 ans, la vraie question qui se pose, c'est la jalousie. Beaucoup plus que plus tard, parce qu'à 20-30 ans, on n'est pas encore fini, et on n'est pas encore totalement sûr de soi, et que moins on est sûr de soi, moins on a confiance en soi, plus on a de raison d'être jaloux. Parce que si on est complètement sûr de ce qu'on est, si on sait qu'on existe indépendamment d'un autre, même si on adore l'autre, on est beaucoup moins jaloux de toute façon parce qu'on reconnaît à l'autre le droit d'avoir d'autres ouvertures, on se reconnaît soi-même le droit d'être heureux sans être forcément avec l'autre. Enfin, donc, chose qu'on a beaucoup de mal à faire à 20 ans quand on n'est pas sûr de soi et qu'on a peur de l'abandon. La jalousie étant très très souvent sous-tendue par une peur de l'abandon, par une peur d'être ridicule, par une peur que les autres le sachent. Donc en fait, 20-30 ans, c'est un âge où on a peur de beaucoup de choses, même si on roule les mécaniques. C'est vraiment un âge d'apprentissage. Et d'ailleurs, c'est pas un mal. C'est, j'allais dire, c'est une, pratiquement un passage obligé. Et puis, il y a aussi le fait qu'à cet âge-là, il y a l'importance du cercle d'amis. Donc, si on est dans un cercle d'amis relativement ouvert sur ces questions-là, ça sera beaucoup plus facile que si on travaille dans un milieu où on est obligé de se cacher, par exemple, où on n'ose pas le dire. Pareil pour les familles. Si on est dans une famille très catho, très fermée, qui ne pense qu'au mariage fidèle jusqu'à la mort, ça sera difficile de leur dire, ben moi, j'ai envie d'aimer plusieurs personnes. Et puis d'ailleurs, j'en aime plusieurs, mais comment le dire, comment l'expliquer? Alors, 20-30 ans, c'est une période où on est relativement peu indépendant intellectuellement. Surtout aujourd'hui, d'ailleurs, où les adolescents se prolongent au fur et à mesure que se prolongent les études et les périodes de chômage. Parce que c'est pas une question d'âge, en fait, l'adolescence. Les adolescents, des fois, ils ont 30 ans. C'est une question d'indépendance, de pouvoir se passer de ses parents. Et il y a des fois où, même à 30 ans, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas de rond. Et c'est là où on revoit l'influence de la société. C'est que tant qu'on n'est pas réellement indépendant, en plus, pluriamoureux, ça demande quand même des moyens. En temps et en argent, parfois. Parce qu'il y a des déplacements, il faut aller voir l'un, il faut aller voir l'autre. Des fois, deux logements. Enfin, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui demande qu'on ne soit pas complètement pauvre. Hein. Et ça nous est parfois reproché. On nous dit c'est un truc de nanti. C'est pas un truc de nanti, on peut quand même être modeste et pluriamoureux. Mais c'est vrai que c'est pour quelqu'un qui a comme premier souci la survie, ou le lendemain, c'est vrai que ça passe à niveau secondaire. Hein. Comme un SDF, on dit « Oh, ils n'ont pas de vie amoureuse, ils n'en ont pas besoin. » C'est pas qu'ils n'en ont pas besoin, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, c'est tout. Alors personnellement, moi, ça n'a pas été vraiment ça les 20 à 30 ans. D'abord parce que j'étais dans les 70s. Et puis surtout parce que j'ai rencontré mon futur mari, donc je vous l'ai dit, à 17 ans. À 19 ans, j'étais étudiante et puis je travaillais, je gagnais ma vie. Puisque c'était une période où on pouvait assez facilement trouver du travail pour financer ses études, ce que j'ai fait. À 21 ans, j'étais mariée et je suis rentrée dans le pluriamour à 22-23 ans. Donc j'avais déjà 6 ans de vie commune avec celui qui est devenu mon mari. Donc on était déjà dans un projet solide, parce que quand on a 6 ans de vie commune, on a quand même déjà construit un certain nombre de choses. Et donc j'ai vécu mon premier amoureux, je m'en souviens très bien, comme un truc, ouais, celui-là, formidable. En plus, c'est un monsieur beaucoup plus âgé que moi, qui avait 10 ans de plus que moi. Et j'avais l'impression de connaître un homme au lieu de connaître un garçon. Alors je suis rentrée dans le pluriamour sans l'once d'une culpabilité, beaucoup plus en me disant « mais c'est génial, je vais découvrir des trucs que je n'aurais pas pu découvrir sans ça ». Mon mari, ça a été beaucoup plus difficile parce que justement, il était déstabilisé par le fait que c'était quelqu'un qui avait une expérience plus grande que lui. Donc là, en l'occurrence, il avait donc à l'époque, il avait 25 ans, il s'est senti mis en difficulté. On voit bien que la peur, la jalousie étaient beaucoup plus prégnantes alors qu'on avait décidé qu'on vivrait comme ça. On l'avait décidé quand on avait 20 ans. Hein. Mais la première fois, pour lui, ça a été difficile. Mais on a réussi à le surmonter parce qu'on avait, je crois, déjà ces 6 ans d'années communes. Et puis parce qu'en fait, moi, je ne m'étais jamais dit « Mon Dieu, mais j'aime cet homme » parce que je l'aimais et je l'aime toujours, d'ailleurs, profondément. Mais lui, il était marié de son côté, il avait un enfant, et il m'avait dit une phrase qui m'a toujours poursuivie dans ma vie, il m'avait dit « Nous partageons de très beaux instants, mais ça n'implique pas du tout de changer ta vie pour ça. » Donc on partageait des beaux instants qu'on a partagés tout au long de notre vie, ce qui est, ça c'est vraiment quelque chose dont je suis très heureuse, mais on a tout de suite su qu'on ne se mettait pas dans des situations d'enjeu qui allaient nous casser notre vie. Alors bon, c'est arrivé, hein, parce qu'à un moment donné où moi j'étais un petit peu, comment dire, sur le fil du rasoir, ne sachant plus trop où j'en étais. J'étais jeune, j'avais 23 ans. Il m'a dit, écoute, je te laisse, je vais te laisser réfléchir. Et vite fait, il est sorti avec une autre fille, sous mes yeux. Je me suis dit, le salaud, il s'est foutu de moi. Et puis, ça collait pas trop avec Bernard à l'époque. Donc, j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Mais en même temps, je me suis dit, non, un, c'est pas fini avec Bernard. Et deux, c'est pas fini avec Pierre non plus. Et effectivement, un an plus tard, je l'ai retrouvé. Enfin, voilà. Donc le tout c'était que de garder la lucidité, et donc ça après c'est des questions de caractère personnel. À 20-30 ans je pense que j'étais assez lucide parce que mes parents m'avaient toujours dit tu dois gagner ta vie, tu dois t'assumer. Bon, là encore rentre en question l'éducation qu'on a pu recevoir. Et puis bon, c'est vrai aussi que je suis assez peu accessible à la culpabilité. Je reçois énormément de lettres de femmes qui me dit « je me sens une salope, je me sens ceci, je vais lui faire de la peine, ça peut être à leur compagnon, à leur amoureux, à leurs enfants, etc. » Et parfois, je suis même obligée de leur dire « mais attendez, vous n'êtes pas responsable du bonheur de tout le monde. vous apportez quelque chose à quelqu'un, mais chacun est aussi responsable de son bonheur. Et même au sein d'un couple polyamoureux ou pluriamoureux, les deux ne le vivent jamais de la même façon. Parce que ce sont deux personnes différentes, et puis que souvent c'est un homme et une femme. Cela dit, ça peut être deux hommes ou deux femmes. Parce que là, je parle de couple hétéro, mais les amours pluriels, ça existe dans toutes les configurations. On a de la diversité sur nos amours, on a de la diversité sur nos préférences sexuelles aussi. Donc, ça peut arriver dans tout ce domaine-là, mais on n'est pas responsable du bonheur de chacun. On a une responsabilité dessus, mais on n'en est pas responsable. Je crois que les seules personnes sur lesquelles on est responsable, c'est les enfants. Parce que jusqu'à un certain point, on doit quand même les amener à pouvoir, à leur tour, être autonomes. Donc, entre 22 et 29 ans, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de rencontres, dont 5 ou 6 sont encore dans ma vie. Donc ça aussi, c'est un grand bonheur de se dire, finalement, j'ai des gens que je connais depuis toute petite, quoi. Et on ne s'est jamais perdu, même s'il y a eu des éloignements, il y a eu des hauts et des bas. Et donc, j'ai été d'autant plus persuadée que ce mode de vie était enrichissant, parce que ce qui m'a toujours intéressée, c'était de découvrir des personnes. Et je crois que c'est quand même un petit peu le cas de tous les gens qui sont pluriamoureux. Au-delà du fait de tomber amoureux, comme on dit, c'est aussi de se dire, mais je découvre que les gens sont extrêmement divers, je découvre qu'ils font l'amour de façon différente, je découvre qu'ils ont des choses à m'apporter parce que leur univers n'est pas le même que le mien ou que celui de mon compagnon, et qu'on a l'impression d'un seul coup que le monde s'élargit. Et je l'ai toujours vécu comme ça. Alors j'ai un de mes amoureux qui m'a dit, tu nous regardes comme un entomologiste regarde les insectes sous le microscope. Alors je lui ai dit, oui, mais cet entomologiste, il est super amoureux de ses mouches. Et ce qui est vrai, d'ailleurs, comme un scientifique, il adore son sujet de... Voilà, et c'est vrai que même si on est dans l'observation de la personne, quelque part, c'est aussi observer les gens et les regarder vivre. C'est un des plus beaux amours qu'on peut leur donner, parce qu'on les regarde vivre sans vouloir qu'ils vivent de telle ou telle façon. On les regarde vivre, on observe, on dit là je suis d'accord, là pas d'accord, et c'est ce qu'on fait dans les couples pluriamoureux, normalement. On dit là j'ai une limite, là ça va mieux, etc. Et je pense que ça apprend beaucoup la tolérance. Alors après arrive la trentaine, 30-40 ans, et ça honnêtement, je crois qu'il y en a beaucoup entre vous là qui doivent avoir entre 30 et 40 ans, c'est la décennie la plus difficile. C'est vraiment la décennie la plus difficile, parce que c'est la décennie où il y a énormément de choix qui se posent dans la vie. Déjà des choix professionnels, parce que soit vous êtes déjà intégré dans une profession, mais donc c'est un moment de progression, de choix professionnel où le travail prend beaucoup de temps. Soit vous ne savez pas encore quoi faire, vous n'avez pas encore trouvé de boulot, donc ça devient presque une angoisse de dire j'ai 30 ans et j'ai fait que des stages depuis que j'ai quitté les études, je suis un précaire, ce qui est quand même très angoissant. Soit vous êtes un jeune loup dans l'ongle ou une jeune louve dans l'ongle et vous vous dites je veux réussir, ou bien alors je veux changer de boulot, je veux changer de voie. C'est un moment où la vie professionnelle est extrêmement prégnante. Des vies professionnelles plus vie personnelle, dans des journées qui n'ont que 24 heures, parfois c'est difficile. Et puis quand on est pluriamoureux, notamment pour les filles, entre 30 et 40 ans, se pose la question de l'enfant. Et nous, on en a beaucoup en ce moment sur le site pluriamour.info, qui se disent, ben voilà, j'ai 3 amoureux, j'ai 32 ans, 33 ans, je commence à songer à avoir un enfant, mais avec lequel ? Parce qu'il y en a un dont je suis très très amoureuse, mais au fond, je ne suis pas sûre qu'il ferait un très bon père, ou bien je vis avec quelqu'un... Je suis moins intensément passionnée qu'avec l'autre, mais je sais aussi que pour élever un enfant, il vaut peut-être mieux pas être dans la passion intense, il vaut mieux peut-être être dans quelque chose de plus équilibré et d'harmonie de vie. Parce que vivre avec quelqu'un, c'est quand même complètement différent qu'être passionnément amoureux. Et puis l'horloge biologique tourne. Donc si par exemple, il y en a une qui propose à un de ses amoureux d'avoir un enfant, puis que l'autre brusquement lui dit « Ben non, justement, je viens de rencontrer quelqu'un, je suis fou amoureux, c'est pas le moment », et qu'elle va le proposer à l'autre, avec qui elle n'avait pas pensé, elle se dit « Est-ce que c'est un bon choix ou pas ?» Donc c'est des moments qui sont très difficiles à vivre. Et entre 30 et 40 ans, on se dit « Il y a trop de choses ». Et puis le couple, s'il existe depuis un certain temps, depuis 20 ou 25 ans, et qu'on commence à être fait d'enjeux qui ont... J'allais dire qu'ils se monnaient, oui, quelque part, parce qu'on a investi pour faire une maison, on a parfois un patrimoine commun, et on a beau dire, l'argent, ça compte dans un couple. C'est-à-dire qu'après, quand il y aura des disputes sur des histoires d'amour pluriel, derrière, en filigrane, il y aura « tu me dois ci, je te dois ça, tiens, je t'ai aidé alors que tu n'avais pas un rond ». Il peut y avoir des mesquineries terribles qui se propagent et qui s'exprimeront à travers des disputes sur les amours pluriels, alors que derrière, il y aura autre chose, il y aura un rapport de force. Parce que le couple, on vous raconte la fusion merveilleuse de la petite cellule amoureuse, et en fait, c'est pas vrai. Le couple, c'est une escroquerie de dire ça. Le couple, c'est deux personnes qui décident de vivre quelque chose ensemble, Et moi, j'aime beaucoup la définition de Benoît Groulx qui dit « S'aimer, c'est partager tout ce qu'on a envie de partager et pour le reste, que chacun mène sa vie comme il l'entend. » Sauf que, j'adore cette définition, sauf que dans le couple classique, c'est « on doit tout partager ». Et si on partage tout, on est obligé de renoncer à certaines choses parce que l'autre, il n'est pas vous. Et vous, vous n'êtes pas l'autre. Donc, on a des territoires communs dont on fait coïncider des choses et puis il y a des moments où on est obligé de raboter son territoire commun si on doit être fusionnel. Les amoureux pluriels, ils ont décidé de ne pas raboter. Ils ont décidé d'avoir à la fois leur territoire commun et des territoires personnels. Mais défendre son territoire personnel, c'est comme deux pays qui défendent leurs frontières. Hein. C'est-à-dire, là, j'y ai droit, etc. Et donc, c'était des périodes de négociations extraordinaires où chacun voudra dire à l'autre, t'en as eu plus que moi, ou bien là, je suis plus d'accord. La plupart des lettres de gens que je reçois qui sont dans des difficultés de rapport de force comme ça, c'est cette période-là. Et je leur dis toujours, c'est des périodes où on n'est pas rassuré, parce qu'on se dit, la moindre décision que je vais prendre, elle va influer sur des choix énormes, du genre, on a monté une entreprise ensemble, puis en ce moment, ça ne va pas du tout, et puis il ne supporte pas mon amoureux, qu'est-ce que je fais? Il veut que je le quitte, mais moi, je n'ai pas envie, parce que renoncer au pluriamour, c'est renoncer à ce que je suis. Donc, si je renonce à ce que je suis, est-ce que je pourrais encore vivre avec lui? Donc, c'est des périodes très, très difficiles. Et puis, pour des hommes qui approchent la quarantaine, il y a une envie de séduire, vous savez ce qu'on appelait autrefois le démon de midi, mais qui se passe un peu à tous âges, mais aux alentours de la quarantaine, il y a beaucoup d'hommes qui ont une grande envie de séduire. D'ailleurs, à tous les âges, elles ont envie de séduire des filles de 20 ans comme des femmes de 60. C'est, je sais pas, une espèce de frénésie qui les prend, ça va être hormonal. Et à ce moment-là, dans cette envie de séduire, ils peuvent, parce qu'ils sont beaucoup plus, comment dire, pulsionnels, et sentimentaux qu'on ne le croit, les hommes, il peut y avoir un moment où ils rencontrent une fille et ils se disent « mais c'est peut-être celle-ci la vraie femme de ma vie, j'ai peut-être fait une erreur, c'était peut-être que le pluriamour c'était juste une façon de me cacher qu'en fait j'étais pas bien avec mon ancienne », donc ils se posent des questions qu'ils se posaient pas avant. Ça allait très bien, puis brusquement ils tombent passionnément amoureux, soit d'une jouvencelle, soit au contraire d'une femme plus âgée ou d'une femme de leur âge, et ils peuvent très bien remettre en cause à ce moment-là toute la construction. Donc on en a eu quelques cas, c'est pour ça que je vous en parle, où ça semblait rouler en pluriamour très bien depuis 5, 6, 7 ans, et brusquement, le garçon, parce qu'il vit une espèce de conte de fées avec une jeune fille, dit « Ah mais non, mais finalement, non, je crois que j'ai fait erreur, et puis c'est toi qui m'as entraîné là-dedans, parce que c'est toi qui m'en as parlé, donc après il y a des espèces de rapports de force terribles, moi d'ailleurs, toi t'en as plus profité que moi, etc. Et ce sont des périodes extraordinairement difficiles à gérer, et où là, il faut se dire « Bon, qu'est-ce que je fais ?» Ça ne veut pas dire que je dois retenir à toute force mon compagnon, parce que chez les plus amoureux, il y a des ruptures aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'on est plus amoureux que toutes les histoires doivent durer toute la vie. On sait aussi qu'il y a des gens qui... Et là, décider de rompre, mais de rompre avec lequel? Et pour faire quoi? Voilà. Et donc, voilà, entre 30 et 40 ans, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est là aussi où on doit bien approfondir pour se dire, est-ce que c'est vraiment mon choix de couple ou de couple, ou de façon de vivre. Il y a ceux aussi qui décident de vivre ensemble, mais vivre en troupe, comme il y en a certains, donc plusieurs hommes ou plusieurs femmes. Je dis troupe, ça peut être quatre, enfin, je veux dire, à plusieurs, mais en communauté. Ça implique des choses très compliquées, de partage de territoire, de comment on élève les enfants, et puis si j'ai fait l'enfant avec un des amoureux, est-ce que le second, je dois le faire avec l'autre, ou est-ce qu'il n'y aura qu'un seul père pour mes enfants? Il n'y a pas de réponse, hein. Je ne peux pas vous dire il vaut mieux faire ci ou faire ça. Moi, j'ai eu mes enfants avec le même homme, mais j'en connais qui veulent en avoir avec chacun de leurs hommes. Après, ça posera des questions juridiques. On revient dans la société, c'est-à-dire, est-ce qu'on sera considéré comme des polygames? Quels seront les droits de ces enfants? Donc tout ça implique une vraie réflexion qui, pour l'instant, n'a pas eu réellement lieu naturellement au niveau des politiques. Il n'y a qu'à voir comme le mariage homosexuel leur pose problème en France. Alors, vous pensez bien que du mariage polyamoureux, n'en parlons pas. Et donc, c'est une décennie qui est difficile, mais c'est aussi une décennie qui permet de réfléchir à ce qu'on souhaite vraiment. En fait, il faudrait pratiquement prendre le temps de se poser, mais là encore, la difficulté, c'est une période où on a peu de temps, et de se dire, bon, quels sont mes vrais désirs ? Réellement, au fond, est-ce que je ne suis pas partie trop tôt ? Comme une jeune femme qui m'a écrit, qui m'a dit « Je me suis mariée à 20 ans, j'ai fait une entreprise avec mon mari, on a eu un enfant 2 ans après, ma petite fille a 6 ans, là je viens de rencontrer quelqu'un, je découvre des choses extraordinaires de ma personnalité grâce à cet homme, et j'ai l'impression quelque part que j'ai été fourvoyée dans une mauvaise voie, et elle était prête à tout casser. » Et puis finalement, 3 ans après, eh ben, elle a gardé son couple, elle a gardé cet homme, elle en a eu quelques autres, et elle a trouvé son équilibre. Mais il y a eu une période de concasseuse et d'essoreuse à salade assez, qui a duré pendant 1 an et demi. Quoi. Donc il faut savoir qu'il y a des moments, moi j'en ai vécu, c'était un peu plus tard, où on est vraiment en interrogation. On n'est pas aussi sûr de soi qu'on le pensait au départ. C'est même d'ailleurs quelque part l'intérêt de ce mode de vie. C'est que jamais tout est dit pour toute la vie. Alors moi, j'ai eu mes filles après 30 ans, les deux, et c'est vrai que ça a été un très grand bouleversement. C'est-à-dire que réellement, on n'est jamais pareil une fois qu'on est parent. Bon, déjà, il y a le début où je me disais, mais je suis tellement crevée, entre les couches, les machins, l'allaitement, les nuits courtes, etc. Autant dire que mes amoureux, en plus, on habitait à la campagne à l'époque, dans une communauté villageoise de 10 familles. Et moi, j'avais l'impression de courir tout le temps entre aller travailler à Paris, revenir à la communauté, récupérer ma fille chez sa nourrice. Enfin, c'était tellement l'horreur que je regardais ma décennie 20-29 ans comme un truc. J'étais comme ça, mais c'est étonnant. C'est une super vie, mais maintenant, je me suis assagie. Je gardais l'idée que j'étais plus riche, c'est-à-dire que d'autres occasions se présenteraient, mais que pour l'instant, c'était pas possible. J'avais pas le temps ni rien. À l'inverse, Bernard, lui, était beaucoup plus disponible. Donc, c'est une période où il a multiplié les aventures d'une façon très, 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 comment dire, voyante sur le thème. Ben, maintenant, on est sûr de ce qu'on fait, donc on le montre à tout le monde. Sauf que dans une communauté villageoise, quand vous rentrez moi, ça m'est arrivé de rentrer de reportage. Il avait invité une de ses copines à habiter 8 jours à la maison avec lui pendant que j'étais en reportage. Et j'arrive avec mon voisin, il me fait « Oh, bonjour madame, eh ben, dites donc, vous êtes bien vite remplacée hein, quand vous partez. » Et j'ai beau pas être jalouse, je avoue que j'apprécie pas. Je trouve que passer pour la femme complaisante, trompée, etc. Alors moi j'avais répondu « Oui, je sais, je la connais bien, c'est une amie de mon mari. » Bon, donc ça a un peu choqué le voisin, mais au moins, bon, je passais pas pour une idiote. Mais c'est vrai que c'était difficile à gérer. Et quand je lui en faisais la remarque, je lui disais « Tu pourrais quand même être plus discret, moi j'amène jamais d'homme à la maison de cette façon. » Il me répondait « Ah ben, il faut savoir ce que tu veux, tu dis qu'il faut pas mentir, donc moi je ne mens pas. » Sauf qu'il était quand même carrément un peu exhibitionniste, quoi. Donc là aussi, il y avait quand même aussi des limites à montrer. Donc discrétion tout le temps. Alors ce qui était bien, c'est que le journalisme à l'époque, j'étais comme tous les 30-40 ans, en pleine expansion de carrière, je voyageais beaucoup, je faisais plein de choses. Et finalement, à un moment donné, je me suis dit « Oh, le sexe est quand même très très surévalué, il y a tellement d'autres choses intéressantes dans la vie. Ça m'a bien plu, mais enfin maintenant, je dois avoir eu mon compte, le coït de base, comme je te disais hier, je sais ce que c'est. Mais en même temps, je me disais aussi, je me souviens même l'avoir écrit dans un texte, dans des petits carnets intimes, je me disais, je suis tout à fait stabilisée, j'ai mes filles, on a une maison, on est heureux, cette communauté en plus était politiquement engagée. On avait des gens comme Bernard Kouchner, Régis Debray et tout compagnie qui venaient, on refaisait le monde à grande force de réunion. Donc c'était passionnant, mais en même temps je m'étais dit je suis sur l'autoroute du bonheur, totalement assagie, mais est-ce que je vais être sur l'autoroute tout droit jusqu'à la mort ou est-ce qu'un jour je retrouverai des chemins de traverse? Parce que les chemins de traverse c'est quand même ceux où il y a les fleurs, c'est ceux où il y a où ça tourne un peu, où il y a des rivières. Bon, l'autoroute, moi ça m'emmerde un peu, ça il faut le dire. Et à cette époque je me suis rendu compte que j'allais pas trop bien. Parce que c'était une période où j'ai souffert de maux de tête épouvantables. J'étais même allée voir des toubibs en pensant que j'avais une tumeur au cerveau, des trucs comme ça. Ils ne me trouvaient rien. Après, ils me disaient « Vous avez de l'arthrose, machin. » J'avais pas d'arthrose. Et c'est là que je me suis dit « Il se passe un truc. » Vous saurez plus tard ce qui s'était passé, car nous sommes passés à la troisième décennie, 40-50 ans. Or, 40-50 ans, ça peut être très différent selon que ce sont des couples qui ont commencé à être pluriamoureux dès le début. Donc maintenant, ils ont 20 ans de polyamour derrière eux, ou 15 ans. Ou bien ceux qui commencent à 40-50 ans, il y en a. Il y en a, et c'est même pas rare du tout. Alors, ceux qui ont commencé tôt, pour eux, c'est une période assez apaisée, parce qu'ils sont sûrs du lien. Parce qu'au bout de 15 ans de vie commune, on sait qu'il y aura un lien, y compris s'il y a séparation. C'est-à-dire qu'on sait que même si on se sépare de la personne, on aura eu éventuellement des enfants avec, on aura vécu beaucoup de choses... Plus j'avance en âge, plus je me dis que la durée en soi approfondit le lien. Rien que le fait de la durée, parce que quand on connaît quelqu'un qui vous a connu quand vous aviez 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35, qui peut vous dire, moi je suis capable de dire à mon mari, en janvier 87 t'étais avec une telle, enfin voilà, je lui rappelle ses souvenirs. On a des, on a des tas de petites pierres communes qu'on a partagées. Et ça, ça crée un véritable lien, y compris si un jour il y a rupture amoureuse. Donc on se fait plus confiance. Pour les femmes et les hommes entre 40 et 50 ans, ça y est, leur carrière, c'est quand même assez bien établi. Donc c'est pareil, ils ont beaucoup moins à prouver, donc ils ont gagné en confiance en eux, professionnellement. Donc c'est une période qui est super agréable sur le plan amoureux pour ceux qui sont dans le pluriamour depuis un certain temps. En plus, les femmes de 40 ans sont les plus belles du monde, on le sait, donc ça fait plaisir. C'est une période où on a encore aussi toute sa compétence physique, on est bien, on n'est pas... Sous Balzac, les femmes étaient vieilles à 30 ans, aujourd'hui une femme de 40 ans, c'est encore une femme jeune et en pleine forme. Donc c'est une belle période, sauf qu'on a des enfants qui parfois sont adolescents. Et que l'adolescence et le pluriamour, ça peut être un truc très compliqué. Autant avec les enfants petits, c'est relativement simple, parce que les enfants petits, vous leur dites « Tiens, papa n'est pas là ce soir, il rentrera demain. » Ah bon, bah, très bien. Parce que les enfants petits, finalement, du moment qu'on leur explique un fait, et qu'on est là, que maman est là ou que papa est là, si c'est maman qui est sortie, ça ne leur pose pas problème. Si on leur dit même, comme ma fille m'avait dit, « Ta papa et tes amoureux, et papa, il a toi et ses amoureuses », pour elle, ça coulait de source quand elle avait 3 ans. C'est parce qu'elle, à l'école maternelle, elle avait plusieurs amoureux. Tous les gamins de la petite école, ils ont plusieurs amoureux. Donc pour eux, c'est pas du tout impossible. C'est après, quand la société, le collège, tout ça, leur dit qu'il faut un amour unique et que ce sera celui pour la vie, qu'ils commencent à se dire « mes parents sont quand même un peu bizarres ». Et en plus, à l'adolescence, qu'ils aient des parents monogames, des parents divorcés, des parents pluriamoureux, de toute façon, leurs parents sont des cons. Alors donc, et c'est obligatoire, c'est hormonal, ça a beaucoup énervé mes filles quand elles étaient insupportables à l'adolescence, je leur disais c'est pas grave, ça vous durera 6 ans, c'est hormonal, ça se calmera après. Du coup elles sentaient qu'elles n'avaient pas beaucoup de prise sur moi, ça les énervait. Mais c'est évident, mais ça peut être parfois compliqué, parce que l'enfant, pour lui, il peut avoir une véritable souffrance, parce que les adolescents sont conformistes, et quand à l'école, quelqu'un leur dit « Dis donc, mais tes parents, j'ai vu ton père sortir avec une femme, c'était pas ta mère, alors ton père, il trompe ta mère » ou des choses comme ça. Pour eux, ça peut être très compliqué. Et dire « Mes parents sont pluriamoureux, mais il y aura 0,5% des copains qui comprendront. » Et quand on est adolescent, on a besoin d'être compris par ses copains, on a besoin d'être accepté par le groupe. Donc il peut y avoir à ce moment-là, pour les adolescents, quelque chose de difficile à vivre, et il faut y être attentif. Parce que des fois, c'est à des choses, minimes, qu'ils auront une souffrance qui leur reviendra bien longtemps après. J'en ai parlé pas plus tard qu'il y a 3 jours avec mon amoureux qui est dans le film « La grande amoureuse sur la péniche », quand on est sur la péniche. Et à l'époque, quand on s'est connus, son fils avait 13 ans. Et lui, c'est un papa poule. Alors, il sortait tout le temps avec son fils, il allait faire du bateau avec, il faisait plein de choses. Puis quand on s'est connus, évidemment, on a passé pas mal de temps ensemble. Et il n'y a pas longtemps, son fils, qui a plus de 30 ans maintenant, lui dit « Tu sais, en fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est que du jour au lendemain, tu jouais plus avec moi. » Et il lui a sorti ça 20 ans après, quoi. Donc, comme quoi... et lui, il n'avait pas fait attention, parce que quand on est dans la passion, etc., on ne se rend pas compte de ça. Et puis même, on se dit « Il est grand maintenant, il a 13 ans, 14 ans, je peux bien le laisser, il a besoin de ses copains plus que de moi. » Et ce qui était vrai, parce qu'il allait jouer avec ses copains, sauf qu'il s'est dit « Ah, mon père, il aime quelqu'un d'autre que moi », ce qui n'est jamais agréable. Et ma fille aînée, alors là aussi, en plus, il y a des différences suivant les enfants, ma fille aînée, elle m'a fait de la remarque, elle m'a dit « Oui, il y a un moment, tu étais plus préoccupée avec papa de la construction de votre couple que de moi ». Ce qui était faux, parce que c'est vrai qu'on l'avait toujours mise en priorité. Mais elle l'a ressenti comme ça. Et elle ne nous l'a pas dit pendant des années. C'est au moins 10-15 ans après, où un jour on s'engueulait sur un truc qui n'avait strictement rien à voir, et qu'elle me répond « Oui, mais de toute façon, vous, vos enfants, ils ont moins compté que votre couple. » Alors que la plus jeune, c'est l'inverse. La plus jeune, elle dit « Des parents comme vous, qui ont réussi à rester ensemble, alors que tous mes potes ont des parents divorcés. » Et elle trouve ça génial. Alors, ça dépend de la période, elles ont 6 ans de différence, ça dépend de leur caractère, ça dépend de plein de choses. Donc, on ne peut pas culpabiliser en se disant « j'ai mal fait avec mes enfants », mais par contre, à cet âge-là, il faut qu'on soit attentif, parce que des petits signes de rien du tout peuvent créer un petit quelque chose. Alors bon, moi j'ai eu de la chance, elles l'ont exprimé. Mais il y en a d'autres qui peuvent ne pas l'exprimer et garder au fond d'eux quelque chose qui peut ressortir plus tard. Bon, et puis ensuite, ils partent, ces crétins d'adolescents. Quand on a 50 ans, ils arrivent à partir faire leurs études et tout, ils s'en vont. Période de flottement, le couple se retrouve en tête à tête, ce qui leur était pas arrivé pendant toute cette période où ils élevaient leurs enfants. Alors quand ils étaient plus amoureux déjà, Bon, en définitive, ils sont ravis, parce qu'ils disent, ouf, on a un petit peu de temps, on va pouvoir mieux se consacrer à nos amours. Donc là, ceux qui ont commencé tôt, pour eux, c'est une période plutôt agréable. Et puis, il y en a qui commencent à ce moment-là, du style, on a rempli notre devoir, on a été monogame pendant 20 ans de mariage, maintenant, on va s'éclater. Avec deux raisons, souvent. Il y a des hommes qui lisent plein d'articles, qui leur font croire que l'échangisme et le libertinage, c'est tellement tendance qu'il faut avoir essayé avant de mourir, donc ils proposent ça à leur compagne. Et puis il y a des femmes qui se disent, oula, il y a l'horloge biologique, non plus des enfants, mais de la ménopause qui se profile, j'ai intérêt quand même à ne pas mourir idiote et essayer plein de choses. Donc souvent, vers 40-50 ans, on rencontre des couples pour qui le pluriamour passe par une période de libertinage, qui n'a strictement rien de critiquable. Moi, je vois beaucoup de... Je ne sais pas si vous en avez sur polyamour.be, nous, on a des discussions interminables sur polyamour.info, sur est-ce que c'est du polyamour, est-ce que c'est du libertinage, et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça ne se juge pas comme ça. Des polyamoureux peuvent avoir une période de libertinage, et la différence qu'on y met, nous, enfin, je veux dire, les pluriamoureux, c'est qu'ils créent du lien aussi, alors qu'il y a des libertins qui refusent absolument de créer du lien. Mais c'est la différence. Il ne faut pas non plus être bisounours et occulter le fait qu'il y a du désir et du sexe chez les pluriamoureux. Parfois, on a l'impression qu'ils ont presque honte de dire qu'il y a du désir et du sexe. Ils disent « Non, mais on s'aime, nous, c'est de l'amour. » Ben oui, mais dans l'amour, il peut y avoir du désir aussi. Et donc, là, il y a cette période du libertinage. Et après, soit qu'il va complètement s'arrêter, puis reviendra du monogame, soit, au contraire, ils approfondiront. Et comme ils sont moins dans la crainte d'être abandonnés, parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, qu'ils ont confiance en eux, eh bien, ces liens qui ont commencé, comme disait encore Benoît de Grosse, sur la peau, s'approfondissent jusqu'au cœur. Et souvent, ça fait des liens qui sont extrêmement forts, parce que, comment dire, le sexe, c'est quand même un moyen de créer une intimité entre des gens, qui, même si ensuite il est plus prioritaire dans la relation, on n'est jamais pareil avec quelqu'un avec qui on a fait l'amour, ne serait-ce qu'une fois ou deux, qu'avec quelqu'un avec qui on ne l'a jamais fait. Donc c'est aussi un des grands avantages des pluriamoureux, c'est d'avoir dédramatisé le fait d'avoir une relation physique avec quelqu'un, physique en plus au sens pas seulement sexuel, ça peut être sensuel, ça peut être des câlins, enfin il y a les pluriamoureux, enfin je pense, hein, ont une gamme et un éventail de sensualité que n'imaginent pas les monogames qui croient qu'on est toujours tous en train de coïter de base ensemble. Alors qu'on voit qu'on se fait plus, j'allais dire, de câlins, de caresses, de massages, etc., que de se précipiter sauvagement, sexuellement, les uns sur les autres. Et donc, finalement, le pluriamour privilégie en fait des relations qui seront beaucoup plus variées dans l'expression des sentiments et dans l'expression de la sexualité, de la sensualité. Donc, entre 40 et 50 ans, ça peut être extrêmement rassurant, pour le coup, pour chaque individu, de se dire, mais dans le fond, je vieillis, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses de ma vie qui s'arrêtent. Au contraire, il y a plein de choses nouvelles qui sont possibles. Voilà. Alors, s'il y a des troubles ou plus qui vivent ensemble depuis longtemps, normalement, s'ils vivent ensemble depuis longtemps et qu'à 50 ans, ils sont encore ensemble, ils ont trouvé un mode de vie harmonieux. Donc, généralement, c'est une période... Alors, je vous le dis d'une façon... point d'interrogation, parce que je ne connais pas encore de troupes qui ont 15 ans de vie commune. Donc, il y en a peut-être. J'en connais un au Québec, qu'on voit de temps en temps à la télévision. Mais il paraîtrait, d'après ce que en fait, c'est plus vraiment un troupe, qu'il y en a un qui est devenu simplement ami, et qu'il y a un couple et l'ancien mari. Mais enfin, voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'était un moment où la jalousie n'est plus du tout prégnante dans les relations, qu'elles soient d'un couple principal ou du pluriamour. Donc, 40-50 ans, c'est une période importante parce qu'en fait, c'est une période où pratiquement on est adulte. On devient adulte assez tard, en définitive. Alors, personnellement, mais je vous parlerai pas en détail parce que c'est tout dans mon livre. Alors, je ne vais pas vous le raconter. C'était la période où j'ai connu les 40e rugissants, comme je dis, qui a été une période d'un an à peu près dans ma vie, un an et demi, très compliquée, parce que mon mari avait toujours pensé qu'il devait contrôler mes relations, donc il voulait savoir ce qui se passait, dans le détail, où j'en étais de mes sentiments, ça le rassurait. Et moi, je me percevais que j'avais pas du tout envie, ni qu'il me raconte tout dans le détail, parce qu'il y a un petit peu cette déformation, les gens disent « le pluriamour, faut pas mentir », c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on va raconter dans le détail tous ces ébats et ces sentiments. Il y a des sentiments qui sont indicibles. Il y a des sentiments que je ressens, je serais même incapable de les expliquer à la personne pour qui je les ressens. Donc, encore moins à quelqu'un qui n'en fait pas partie. Et puis par ailleurs, même si on n'est pas jaloux, je pense qu'aucune personne n'a envie de s'entendre dire « Ah, je reviens d'un rendez-vous avec un tel, c'était super, on a fait l'amour comme des fous, puis qu'est-ce que je l'aime, tu peux pas savoir. » C'est quand même extrêmement désagréable à entendre si soi-même on est amoureux de la même personne. Et puis c'est même un peu, j'allais dire, c'est même un petit peu voyeuriste par certains côtés. Je m'étais rendu compte que parfois, mon mari me racontait des choses uniquement pour me montrer qu'il était un grand séducteur. Il y avait un côté « je frime pour te montrer que je sais ». Que je vis plein de choses, etc. Et il tenait aussi à me présenter ses amis. Moi, il y en a que j'ai beaucoup aimé, avec qui on est partis en vacances ensemble, etc. Il y en a d'autres, j'avais rien à leur dire, parce qu'ils pouvaient tomber amoureux de filles qui me plaisaient pas. Et c'est là où je lui ai dit, écoute, non, moi, je suis pas d'accord. La vraie liberté, c'est pas de devoir sans arrêt rendre compte et être contrôlé. La vraie liberté, c'est que je te fais assez confiance pour savoir que tu sauras mener tes affaires amoureuses. Et donc, moi, je veux faire pareil. Et lui, il l'a très mal pris, parce que l'idée d'avoir une porte d'entrée dans mon cerveau, pour lui, c'était beaucoup plus important que l'idée d'avoir la possession de mon corps, parce que ça, c'était réglé depuis des années et des années. Mais le fait que je puisse ne pas lui dire certaines choses, y compris des choses anodines, hein, c'était pas forcément des choses amoureuses, mais que j'ai un jardin secret mental, le gênait beaucoup. Et donc, il y a eu un an et demi, où on a eu des discussions serrées et... jamais violente parce qu'on n'est pas des violents, mais des discussions quand même très très argumentées, des moments où je me suis éloignée. C'est un moment où j'ai pris un congé sabbatique pour aller vivre seule sur une île, toute seule, pour voir comment je me débrouillais toute seule. Et là, j'ai découvert que toute seule, je me sentais bien. Donc, ça voulait dire aussi que ça y est, j'assumais ce que j'étais toute seule. Mais c'est un moment où qui a été d'une richesse incroyable. Entre 40 et 50 ans, j'ai commencé à plonger sous-marine, j'ai fait du parachutisme, j'ai voyagé, j'ai fait mon congé sabbatique. D'un seul coup, je me suis dit, il faut que j'assume mon autonomie. Alors qu'avant, j'avais l'impression qu'on était un couple pluriamoureux. Et plus j'avance en âge, plus je crois qu'il est extrêmement important de cultiver aussi son autonomie. Parce que le couple... pluriamoureux, en disant on est pluriamoureux, mais tout pareil et on se raconte tout, quasiment on revient à de la fusion qui dit pas son nom mais qui est quand même un peu de la fusion. Et là, moi je voulais être autonome dans tout. Et un jour, Bernard me l'a réalisé en me disant, je m'aperçois que si je te mets des barrières, tu sautes par-dessus. Et si je t'en mets pas, tu te les mets toi-même. Ce qui est vrai, parce que je suis quand même quelqu'un de relativement raisonnable. Et donc à partir du moment où il a réalisé ça et où il m'a fait totalement confiance, nos relations se sont totalement harmonisées. Et je dirais qu'aujourd'hui, on se dit deux fois plus qu'on s'aime qu'on se le disait il y a 10 ans ou 15 ans. Parce que petit à petit, il a gagné en confiance en moi, mais je me rends compte, je ne lui en veux pas du tout, que le contrôle qu'il voulait, c'est parce que lui-même n'avait pas totalement confiance en lui. Enfin, il y a des tas de choses. Et puis c'est vrai que j'avais un métier public, où on me faisait parler sans arrêt de ça, et que lui, parce qu'il était dans un milieu où on ne peut pas facilement en parler, il était à l'écart. Donc, ce fameux rapport de force du couple existait. Alors, ce qui est intéressant dans le pluriamour, c'est que, justement, comme on voit la diversité des sentiments, la diversité des personnes qu'on rencontre, on n'est plus à dire « ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, si tu ne penses pas comme ça, t'es un nul, je te lâche, etc. » On peut se dire gentiment « tu penses comme ça blanc, moi je pense comme ça noir », ça ne veut pas dire que blanc est tout juste ou noir tout juste, ça veut dire qu'on a des façons différentes de voir. Et je pense que ça apprend vraiment à négocier des avis différents sans croire qu'on est adversaire. Alors que normalement, dès qu'on a des avis différents, on doit être des ennemis et s'entretuer. Et je trouve que c'est un des gros apports du pluriamour, c'est de pouvoir dire « je ne suis pas d'accord avec toi, mais ça ne veut pas dire que tu as tort et ça ne veut pas dire que j'ai raison, ni inversement. » Et dans toute mon existence, c'est peut-être la chose que je trouve la plus intéressante, c'est d'apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, à savoir lui dire quand ça va pas, c'est pas du tout avoir peur ou à lui dire t'es toujours tout bon mon amour, mais c'est lui dire bon ben là je suis pas d'accord, mais je comprends pourquoi tu raisonnes comme ça. Ce qui peut servir d'ailleurs dans plein d'autres domaines de la vie. C'est une période aussi entre 40 et 50 ans où lui a eu deux liaisons quasi maritales, où il était pratiquement plus avec une de ses amies notamment qu'avec moi. Ce qui veut dire que j'ai dû cultiver, par la force des choses, mon autonomie. Et j'ai découvert que j'adorais ça. C'est-à-dire que finalement, j'aurais pu me dire, mon Dieu, mais il me laisse tomber le week-end, ou il part en vacances avec elle et pas avec moi. Mais pas du tout. J'ai trouvé que c'était formidable de pouvoir partir seule en vacances avec des copains. Donc j'ai découvert aussi une autonomie qui me sert encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, on apprend à apprivoiser comme ça le fait de faire les choses seules, de se débrouiller. J'ai appris à ouvrir les huîtres toute seule. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai appris à faire toute seule. Et ça fait plaisir de se dire qu'on s'enrichit la vie parce que justement, on ne compte pas toujours sur quelqu'un. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, mais qu'on ne se dit pas « il est là pour me servir de béquille », ce qui est le cas de beaucoup de couples qui se servent mutuellement de béquille. Et, attendez, qu'est-ce que je vous ai écrit là ? Oui, en fait, ce qui était intéressant aussi, c'est que petit à petit, quand on a entre 40 et 50 ans, on commence aussi à entrevoir, parce que après 50 ans, aujourd'hui, bon, il y en a un certain nombre de vous qui n'y sommes pas encore, et puis à plus de 60 ans, je ne pourrais pas encore vous en parler, mais je peux quand même vous en parler parce que j'ai quand même plusieurs amis qui ont plus de 60 ans. Les plus de 60 ans aujourd'hui sont des gens qui, grosso modo, sont les baby-boomers, ce qu'on a appelé les baby-boomers qui sont nés entre 46 et 53 à peu près, donc ceux qui ont entre 60 et 67 ans aujourd'hui. Et c'est une génération tout à fait particulière. C'est pas parce qu'ils sont baby-boomers que je dis ça, mais c'est parce que c'est une génération pléthorique qui a été hyper nombreuse, la génération de l'après-guerre, et qui a vécu tout différemment des générations d'avant. Parce que déjà, ils ont connu, comme là, il y avait les antibiotiques, les vaccins, le progrès de l'hygiène et tout ça, il y a eu beaucoup moins de mortalité infantile, donc ils sont restés très très nombreux. Et c'est la première fois que les parents, leurs parents, ne se sont pas, ont pensé que garder ses enfants était normal, alors qu'avant, on savait qu'on en perdait un ou deux dans une fratrie. Donc c'est la première fois où il y a eu très peu de mortalité infantile. Ensuite, ils ont eu la chance de ne pas connaître de guerre sur leur territoire, puisque la guerre mondiale était finie. Pour ce qui est de la France, ils ont même évité la guerre d'Algérie, puisque c'était plutôt ceux qui étaient nés en 42-43 qui ont fait la guerre d'Algérie, mais ceux qui sont nés après 45, non. Donc c'est des gens chez qui la mort et la vieillesse n'avaient pas de signification. Et c'est pour ça, je pense, que les baby-boomers, ils sont restés très adolescents pendant très très longtemps. Et puis il y a eu mai 68. Et mai 68 n'a pas été une révolution politique, mais a été une révolution sociale et de mœurs, qui faisait que maintenant, un type de 50 ans ou 60 ans, il peut aller au boulot en jean et en pull, ça choquera pas vraiment, sauf dans certains milieux, alors qu'autrefois c'était impensable. Une femme ne pouvait pas aller travailler en pantalon dans plein d'endroits. Maintenant, ça ferait rire si on racontait ça. Et donc les baby-boomers se sont sentis une génération invulnérable, puisqu'ils n'ont pas eu de mortalité infantile, pas eu de mort au front ou à la guerre, donc une santé quand même assez insolente, ont connu le plein emploi, donc pas non plus ces angoisses qu'ont les jeunes d'aujourd'hui, ont connu la parenthèse fabuleuse avec pilule et sans sida, avec des filles qui aimaient la liberté sexuelle, non pas par défi contre eux, comme parfois ça se fait aujourd'hui, mais simplement parce qu'elles étaient joyeuses et, comme on disait, elles jetaient leur soutien-gorge par-dessus les moulins. Donc c'est une génération qui était extrêmement joyeuse, qui voulait changer le monde, et puis qui aujourd'hui a bigrement échoué. Bon, ça c'est terrible. Et alors justement, ils arrivent aujourd'hui, 60-65 ans, pluriamoureux et mono pareil, d'ailleurs même les monogames pareil, mais encore plus les pluriamoureux, puisqu'ils ont eu tout un chemin très long. Et là, pour la première fois, il y a leur médecin qui commence à leur dire, à votre âge, il vous faut un toucher rectal pour la prostate. Et puis on leur dit, l'érection, ça va comment ? Et puis ils commencent à voir quelques copains qui meurent de cancer ou d'infarctus. Donc c'est une période où brusquement, ils se sentent fragiles, alors que jusqu'ici, ils ne se sont jamais sentis fragiles. Et je soupçonne nos hommes politiques de rester à faire de la politique pour ne pas se sentir fragiles, parce qu'eux aussi, ils atteignent tous ces âges, hein, Kouchner, machin et tout, ils ont ces âges-là. Et donc pour les pluriamoureux, il commence à y avoir une grande angoisse, et oui, mais c'est pas le tout, ça y est, je vieillis, je suis quand même, s'il me reste 10-15 ans à bien vivre, c'est bien le maximum, même si je meurs pas tout de suite, on sait que passer 80 ans, c'est quand même plus pareil. Hein. Et il y a des angoisses qui se font par rapport à, mais comment on fait quand on a plusieurs amoureux ? On en a eu un qui nous a répondu, qui nous a écrit plutôt en disant, ben voilà, moi j'ai du mal à satisfaire une compagne, comment je pourrais en satisfaire deux ou trois ? Et alors là, j'ai trouvé que justement, le pluriamour était un truc extraordinaire, parce qu'il y a des filles qui lui ont répondu, des filles de 30 ans, qui ont dit, mais non, mais au contraire, c'est super, parce que vous, vous avez du temps, vous avez du savoir-faire, de la douceur, vous allez apporter à vos jeunes amantes, si vous avez des jeunes amantes, ce que leurs jeunes amantes ne leur apportent pas, eux qui sont toujours pressés, speedés, machin, et eux, pour la jouissance, mais ils leur apporteront ce dont elles ont besoin. Donc vous n'êtes plus totalement responsable d'elles, et vous allez pouvoir profiter au maximum de ce que vous avez. Et je me suis dit, ça, c'est formidable. Voilà un apport du pluriamour. C'est qu'au lieu de se dire, je suis fini, j'ai 65 ans, je ne bande plus, ils se disent, mais si, j'ai plein de relations possibles amoureuses avec des femmes et sans l'idée de l'âge. Parce que les amours pluriels, en tout cas, moi, m'ont appris une chose, c'est que l'âge n'avait pas une grande importance. C'est plus la santé qui a une importance. C'est vrai que la santé, c'est aussi le fait de ne pas refuser de vieillir. Mais ça n'a pas ces espèces de choses qu'on... de barrières qu'on met beaucoup dans le monde, j'allais dire classique et monogame. Et donc après 50 ans et même 60, les femmes plurielles, elles recueillent les bienfaits de leur mode de vie parce qu'elles ont appris à cultiver une sensualité variée, elles ont appris à s'épanouir sexuellement. Donc même à la limite, si elles se disent ben, « j'aurai moins de relations », elles se disent « j'ai pas de regrets ». J'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec Brigitte Lahaye qui anime une émission sur RMC, et qui m'a dit, tu sais, moi maintenant, faire l'amour, je sais ce que c'est. J'ai connu à peu près tout, j'ai pu réaliser mes fantasmes, j'ai vécu dans un monde de liberté. Et elle dit, maintenant, ce que j'aime, c'est avoir des relations avec des hommes, où on sent qu'on est homme et femme, où on sent qu'on a une séduction. Mais ouf, elle me dit, des fois, ça m'ennuierait d'aller me déshabiller devant eux. Alors on se fait des câlins comme ça, et puis ça suffit. Donc ça donne un épanouissement qui est extrêmement serein, mais parce qu'il n'y a pas de frustration. Et c'est, j'allais dire, c'est là qu'on recueille un petit peu le résultat de toute cette vie qui parfois était compliquée, c'est de se dire finalement, on a vécu plusieurs vies en une. On a vécu plusieurs vies en une, et puis on n'a pas eu de frustration, on a aussi appris à surmonter des difficultés, on se sent mieux armé pour la dernière partie de la vie, sous réserve d'y avoir un petit peu pensé. Alors, ça je ne sais pas si tout le monde, moi ça fait depuis l'âge de 16 ans, depuis que j'ai eu un camarade de classe qui s'est noyé, et il avait 16 ans, et je me suis dit, tiens, mais on peut mourir à tout âge. J'ai toujours pensé qu'il y avait une finitude, donc c'est pas à 60 ans que je vais m'en rendre compte. Je m'en suis rendu compte toujours, mais je vois beaucoup de mes amis, hommes notamment, qui me disent, mais moi je me croyais éternelle jusqu'à 45 ans, et puis j'ai commencé à voir des copains avoir un accident, un AVC ou des trucs comme ça, et commencent à s'angoisser. Mais ceux qui ont eu une vie amoureuse un peu plurie s'angoissent beaucoup moins parce qu'ils se disent au moins, même si je claque, j'aurai pas de regrets. Donc il y a quand même quelque chose de pas mal. Et puis la sensualité qu'ils ont cultivée, ça leur permet aussi de raffiner leur plaisir. Donc c'est-à-dire aussi d'aimer d'autres choses. Quand je vous dis que le pluriamour n'est pas la seule chose, ça rentre quand même là-dedans le fait d'être capable d'apprécier, je sais pas, l'eau, les éléments et tout ça. Ça vient de cette culture d'un plaisir qui n'était pas dans un plaisir de conquête, qui était dans un plaisir de découverte et qu'on peut mettre au service d'un tas d'autres domaines. Et enfin, je pense que quand on arrive... alors, je ne sais pas pour les 80 ans, hein, moi je vous le dirai plus tard, mais je pense aussi qu'on se dit qu'on a échappé à la routine. Et chacun sait que la grande ennemie de tous les couples, c'est la routine. Dans un couple, c'est formidable d'avoir des rituels. C'est formidable de se dire, tiens, on va au marché le dimanche ensemble, on se prend un petit café ou on mange des huîtres avec du vin blanc, etc. Les rituels, c'est fondateur de l'amour. Par contre, la routine et l'ennui, sont des ennemis. Et dans le pluriamour, il est très difficile d'avoir de la routine et de l'ennui parce que rien n'est jamais gagné. Comme je vous dis, à tous les âges que je viens de vous décrire, il se passe des événements nouveaux. Et donc, ça implique qu'on ne se dit pas, l'amour, je l'ai parce que je l'ai épousé tel jour et j'ai signé le papier. Et ne serait-ce que pour ça, je pense que c'est un choix qui vaut la peine. Mais ce n'est pas un choix facile, et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire aux gens le pluriamour, ça va vous remplacer le couple, c'est le bon modèle, il n'y a pas de modèle. Et puis dans tous les pluriamoureux, il y a pratiquement autant de façons de le vivre qu'il y a de pluriamoureux. Et on peut même des fois traverser de grandes périodes monogames, c'est le cas par exemple de Martine, la réalisatrice du film. En ce moment, elle a deux enfants en bas âge, elle tourne des films, etc. Ben, elle m'a dit, oh, ben, tu sais, j'ai plus le temps hein, pour les amoureux. Alors je lui dis, alors tu te considères comme monogame? Elle m'a dit non, parce que dans ma tête, je sais bien qu'il m'arrivera d'autres choses. Et je crois que c'est essentiellement ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien traverser des périodes, j'allais dire, de fidélité, entre guillemets, de monogamie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus pluriamoureux. Il y a un moment où on se dit, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, c'est un choix où on dit, comme disait Guilin, la porte est ouverte, mais il y a des fois, on ne passe pas la porte. Et puis il y a d'autres fois, on la passera trois fois par jour. Et c'est à partir du moment où on admet ça, où on admet qu'on n'est pas dans un cadre, mais qu'on veut que le monde soit ouvert, je crois qu'on a réellement intégré le pluriamour. Ce n'est pas par le nombre de relations qu'on a, c'est vraiment le fait de se dire « je m'ouvre à toutes les possibilités ». C'est vraiment l'ouverture des possibles et qui permet de s'y sentir bien. Voilà, bah, j'ai fini.